same as it never was. Never was. Same as it never was. Never was. Same as it never was. Never never was. Same as it never never was. Never never was. Same as it never was. 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 Never was. Same as it never was.
Salut à vous, auditeurs de La Grenouille, amis vibrateurs. C'est la dernière émission de la saison, la dernière émission de Soul Vibration avec Mars Blackmon en direct des studios des 3-8. Seb en face de moi pour ce soir, une émission archi exceptionnelle. On va essayer de remercier à notre manière tous les artistes qui ont bien voulu participer à Soul Vibration cette année. Et bah, évidemment, Alice Russell, Amp Fiddler, Gilles Peterson, Fat Freddy's Drop, Baby Charles, TM Duke, j'en passe, et des meilleurs. On va vous repasser un petit peu des morceaux de tout cela, vous faire réécouter les jingles qu'ils ont pu nous envoyer, toute la bonne humeur qu'on a pu avoir tous ensemble. Et puis, il y a événement exceptionnel, invité exceptionnel, notre plus grande fierté, en tout cas au niveau cinéma, nous à La Grenouille, on l'adore, c'est Michel Gondry, qu'on aura d'ici normalement 5-10 minutes en interview spéciale, et qui nous a fait passer une petite playlist aussi qui vaut le détour. Voilà. Le dernier single, Herbalizer, Same As It Ever Was, qu'on commence à écouter, c'est Soul Vibration, c'est la dernière de l'année. Restez bien branchés parce que là, vraiment, il y a du beau monde.
To the oldies, playing dominoes, drinking shots of Stolies. With his friends, we refer to them as homies. Drug dealers and addicts, some parolees. Pimps and Macs, Superflies and Goldies. I remember everything them cats showed me. How to kick it with the females and roll weed. It seems Pop took more time to scold me. I figured that was his little way to control me. Through hard times, he never did console me. Instead, he eyeballed and spoke coldly. I was your son, but you didn't really know me. I lived life pretending things was rosy. Standing firm on the concrete below me. A part of you, old dude, lo and behold me. Everything is yours, it's a man's world. Now get your ass off the phone with them damn girls. Chasing us to downfall of the damn squirrel. Get your head in them books, man.
Stand up straight and look in my eye. I'm hard on you cause I love you and that's no lie. I'm sorry about the bruise on your face, understand? You still my son, I'm still your old man. I don't really understand everything I do, so please help me out, I'm like you, part two. My old dude was something to see, my only idol, everything I wanted to be. All I wanna know is what you wanted from me. I did more right than wrong, and that's the reason I write this song. It's therapy for my mind while I light the bomb. Shit hurts, but I feel like life goes on. Be a man, suck it up. By 15, I'm ducking left hooks and uppercuts. I fought back in many ways, it made me toughen up. But surely it's the reason it's limited love with us. It's something I won't get past soon. That's real proof that time don't heal all wounds. But still I learned a lot, you see. When I have a son, now I know how not to be. Everything is yours, it's a man's world. Now get your ass off the phone with them damn girls. Chasing us to downfall of the damn squirrel. Get your head in them books, man. Stand up straight and look in my eye. I'm hard on you cause I love you and that's no lie. I'm sorry about the bruise on your face, understand? You're still my son, I'm still your old man.
Come on Soul Vibrations. Mars Blackman, he is my team.
DJ Modest from Belrouche. You're listening to Soul Vibrations, Mars Blackman.
Simon from Baby Charles on Soul Vibrations with Mars Blackman, and here is my playlist.
Coming, but they never even tried. They had seen the fires burning, and they had all seen the signs. The fool on the street had called a warning, and other gods called the time. Hey, they were caught in the rhythm. Even though they realized they could all see it coming, but they never even tried.
Softly whispers while it breathes. This is Natural Self, and you're listening to the Soul Vibrations with my man Mars Blackman. Here's my selection.
Coming with the beats from the flip-flop streets. The power of America is ruled by greed. It's playing with the world at reckless speed. It's running resources of every nation. Ruling the world by Americanization. They want to rule all nations, black, white, and Asian. In this case, there's no discrimination. Ruling the world by capitalization and the so-called modernization. Your way of life is a damnation. World needs a code. We all need salvation. A way of life is a damnation. We all need hope. We all need salvation. A way of life.
Yo, what's up? My name's Aaron Jerome, and you're listening to my man Mars B with the Late Night Soul Vibrations. Check it.
Way of life is a damnation. We all need hope. We all need salvation. They put up cameras to control everybody so we don't reach unity. Simply grow more greedy. They put up cameras to control everybody so we don't reach unity. We simply grow more greedy. Way of life is a damnation. We all need hope. We all need salvation. Way of life is a damnation. We all need hope. We all need salvation. The speed of light, the speed of sound. A world beyond us, gray and round. Life above the things we know. Adventures of high and low. Way of life, step out. Is damnation. We all need hope. We all need salvation. Way of life is damnation. We all need hope. We all need salvation. We all need salvation. Yeah.
Alex Cowan, aka TM Duke. You're listening to Soul Vibrations with Mars Blackman. Here comes my playlist.
De retour dans les studios de cette dernière émission de Soul Vibration. On rend hommage un peu aux artistes qui nous ont rendu visite cette année. Alice Russell, vous avez entendu un morceau, on en reparlera tout à l'heure. Ram Fiddler, Belle Ruche, Baby Charles, Natural Self, Aaron Jerome, maintenant TM Juke. Un feu d'artifice, il y a toujours un bouquet final. Donc là, on a plus que le plaisir, plus que le privilège et plus que l'honneur de recevoir ce soir notre réalisateur préféré qui nous a servi des petites perles ces derniers temps, hein, que ce soit dans ses clips que vous connaissez tous, Around the World, les clips d'IAM pour nous Marseillais qu'on connaît très bien, les Chemical Brothers, etc. Et puis le cinéma, et puis Eternal Sunshine, A Spotless Mind, et puis Block Party, La Science des Rêves, plus récemment Be Kind Rewind, dont on va écouter la bande originale maintenant en fond sonore pour cette petite interview avec Monsieur Michel Gondry. Salut Michel.
Bonjour.
Comment ça va?
Bien.
Bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour ce petit moment sympathique en tout cas. Et puis pour la dernière émission de la saison de Soul Vibration. Donc, une fois n'est pas coutume, nous on va plutôt parler musique avec vous.
Ouais.
Donc, la relation de Michel Gondry avec la musique, ce soit dans votre carrière, votre vie personnelle, c'est assez prépondérant, voire fusionnel même. Alors réellement, qu'en est-il à ce jour ?
C'est un constant, c'est des allers-retours constants et parfois superposés. C'est-à-dire que j'étais plutôt voué au métier d'art graphique.
Ouais.
J'ai rencontré mes amis, dont Étienne Chary, avec lesquels on a fait le groupe Oui Oui.
Mm-hmm.
Donc à partir de là, j'étais plutôt orienté vers la musique. Puis en étant le batteur de Oui Oui, je me suis procuré une caméra et j'ai commencé à faire des images animées pour le groupe. Et etc, etc. Et puis après, en faisant les clips, c'est vrai que c'était vraiment la jonction entre les deux.
Évidemment, oui.
Et là, récemment, je suis en train d'en faire, par exemple, de monter un clip sur un groupe que je fais avec un ami qui s'appelle MC Paul Barman.
D'accord.
Et le groupe s'appelle Leaf Bird. Donc je continue à faire la musique récemment. Récemment, la semaine dernière, j'ai joué un concert avec les Willows.
D'accord, toujours batteur, hein ?
Oui, oui.
D'accord. Et la manière de choisir les films, la musique pour les films, c'est quoi ? Ça se fait de manière concomitante à l'écriture ? Ou une fois que tout est en boîte ?
En fait, j'utilise beaucoup la musique pour m'inspirer et m'isoler.
D'accord.
J'essaye de... Comme je viens du clip, j'essaye de pas trop donner dans le côté pop-musique... pour quand même me donner l'impression que je suis un vrai réalisateur. Mais je mets quand même un petit peu de pop musique. J'en ai mis pas mal, un petit peu dans le dernier, dans Be Kind Rewind.
Mm-hmm. Qu'on est en train d'écouter d'ailleurs derrière.
Oui, il y avait déjà Fat Waller qui faisait partie de l'histoire.
Ouais.
Et puis il y a cette chanson de Billy Preston qui nous a vraiment bien aidé pour un montage, pour une séquence.
Mmh.
Et puis j'ai réuni le groupe Booker T & MGs et j'ai joué la batterie avec eux pour deux morceaux, ce qui était une sorte de rêve d'enfance.
Ouais, j'imagine. D'ailleurs dans la playlist que vous avez fait passer là, on a le fameux Melting Pot qu'on écoutera tout à l'heure, bien ouais. Évidemment donc l'écriture du film, elle est pas mal inspiré par la musique. On se rappelle de ce choix de ce vieux standard Everybody Got to Learn Sometimes. Ça, c'est fait. Le choix de ce morceau, il est fait au moment où on imagine les scènes.
Non, là en l'occurrence, c'est arrivé pendant le son. En fait, c'était assez rigolo comment ça s'est passé. C'est que j'avais cette mélodie en tête depuis plusieurs années et je savais pas qui l'avait faite. Et comme je chante de manière, je chante très faux, à chaque fois que j'essayais de réclamer, de demander le titre à un ami qui ne comprenait pas ce que je voulais dire, et j'ai travaillé sur ce score avec John Bryan, je lui ai chanté la mélodie, et il m'a dit attends une minute, il était allé chercher une session qu'il avait faite 2 mois auparavant, et en fait il venait de réenregistrer la rythmique de cette chanson avec ses amis. Et on a appelé Beck tout de suite et il est venu faire la voix et c'était réglé très très rapidement.
Ah, ça tombait plutôt bien alors.
Ouais, ouais.
Bah, bien évidemment, quand on parle de Michel Gondry de musique, on pense immédiatement à Bloc Party. Hein. Donc le choix de vous voir vous en tant que réalisateur, c'était un petit peu quand même surprenant pour ce genre. Tous ces artistes qu'on voit dans le film, vous les avez découverts en le préparant ou vous connaissiez tout le monde avant par Dave Chappelle?
Il y en a quand même qui étaient plus connus que d'autres et... Je dirais que j'en connaissais la moitié de...
Mais vous avez rencontré vous les avez rencontrés avant ou c'est un projet?
Non, en fait, j'avais rencontré Kanye West une fois, et puis je crois que c'était tout.
D'accord. Parce qu'on voit dans les bonus...
C'était pas trop mon genre de... En fait, c'était assez divers. Il y avait, ça allait du rap un petit peu commercial avec Kanye West, au plus hardcore avec Dead Prez, et puis au rap un peu, ce que je dirais, un peu nostalgique avec Jill Scott, ou... Le côté rap jazz avec Jill Scott et Eric Abadou, les Fugees. Donc c'était assez varié, mais c'était quand même bon. Il y avait une certaine harmonie de toute manière.
Et c'était pas trop difficile de gérer tous ces égos là, parce que ça doit être quand même Lorini, Eric Abadou, ça doit quand même être des sacrés caractères.
Ouais. Non, Eric Abadou, elle est super sympa en fait, elle est super cool. Je dirais que le plus difficile à gérer, c'était quand même les Fugees. Mais ça valait le coup, parce que quand tu as commencé à jouer sur scène, après 7 ans ou 6 ans, c'était vraiment mon fort.
Ah oui, c'était un moment fort. Alors on voit dans les bonus du DVD, hein, cette scène incroyable où on vous voit, vous, avec au téléphone, Badou, Mos Def, qui est en train de discuter du projet comme d'une réunion entre potes, en fait. Donc vraiment, le but de ce film, c'était d'être témoin de toute cette bonne humeur et de toute cette communauté qui se réunissait.
Oui, en fait, je ne savais pas trop exactement ce qu'ils voulaient célébrer. Disons que c'était une sorte de célébration que Dave Chappelle organisait, finançait et produisait. Et c'était un petit peu, il rendait un petit peu le renvoyer l'ascenseur à tous ces groupes qui avaient joué dans son émission de télé, alors qu'elle n'était pas du tout connue. Et donc, il voulait un petit peu leur rendre hommage. Parce qu'il a vraiment pu exister à travers eux. Et puis, moi, j'ai voulu faire autre chose que simplement un concert filmé. J'ai voulu quand même qu'il y ait un peu une sorte de narration où il y ait des choses soient dites. Parce que ça passait de Fred Hampton Jr., dont le père avait été assassiné, donc il faisait partie des Black Panthers, il avait été assassiné par la CIA, alors que lui était dans le ventre de sa mère. Avec des gens comme Dead Prez qui sont très, très politiques. Bon, j'avais un petit peu envie de donner l'occasion à ces gens de s'exprimer, tout en connaissant mon sujet de manière un petit peu superficielle. Mais je me suis dit, bon, je vais vraiment être ouvert et essayer de faire que ces gens puissent s'exprimer d'une manière qui se voit naturelle, parce que quoi qu'on en dise, dès qu'on met une caméra, les gens sont toujours un petit peu affectés et ils essayent de jouer aux grands qui font des interviews d'une certaine manière. Et après, c'est au rôle du réalisateur de gommer ça en se donnant le temps.
Voilà,
et puis aussi, on a suivi les tribulations de Dave. Ça, c'était un peu son idée. On le voit dans sa ville, la ville dans laquelle il habite, en train de distribuer les tickets pour venir au concert. Et puis, on a un petit peu brodé la fanfare. Ça s'est improvisé. Lors de cette recherche, parce qu'en fait on trouvait personne qui voulait venir au concert, c'était assez rigolo. Et on a trouvé la fanfare et après il y avait un gros suspense, est-ce qu'ils vont pouvoir venir au concert ou pas, ils avaient tous envie de venir. La plupart n'étaient jamais venus à New York. Et là il y a quand même une histoire qui a commencé à se fabriquer.
Bah c'est ce qui ressort de tout au film en fait, des clips, etc. C'est cette spontanéité en fait à chaque fois qui se perd un petit peu dans l'industrie du spectacle en général et même dans la musique. Et justement cette spontanéité, nous on a trouvé qui rendait Block Party si agréable parce qu'on voit rien venir pendant le documentaire. Qu'est-ce qui va se passer? On voit les gens vraiment heureux d'être là. Donc à quel moment vous avez ressenti qu'il fallait laisser parler votre instinct et pas tout calculer et rester spontané?
Là, j'avais pas le choix parce qu'en fait, les producteurs, ils n'avaient aucun intérêt dans le documentaire, ils voulaient juste filmer un concert. Mmh. Bon, déjà, le fait qu'on ait filmé en film, le de la vidéo, ça leur paraît complètement, ça leur paraissait insensé. Donc, on est parti avec une caméra et une équipe de 3 personnes dans l'Ohio, qui est l'état dans lequel habite Dave. Et puis là, on a pris une ou deux après-midi, une ou deux journées, et puis on a tourné un petit peu. Il se passait, ensuite j'ai envoyé un caméraman dans les bus qui venait et on a mis des petits bouts comme ça. En parallèle, moi je faisais des interviews à New York et on a filmé la répétition. Et puis on essayait, on a eu 5 jours de tournage, on a été dans le magazine maximum de matériel. Mm-hmm. Je crois que les autorités étaient très très inquiètes par rapport à un concert de rap dans ce coin de Brooklyn. C'est pas quand même des plus sûrs.
Mais historique en tout cas.
La sécurité était énorme parce qu'ils avaient, il y avait eu, je crois, un assassinat il n'y a pas très longtemps. Il y avait un des mecs de Run DMC qui s'est fait tuer dans le coin. Mm-hmm. Et ils étaient persuadés que ça allait dégénérer. Et puis bon, tout s'est passé super bien.
Ouais. Alors nous, à Soul Vibration, c'est une émission qui laisse une immense place à la culture black. Alors pour l'avoir approché de près, qu'est-ce que vous pensez de son évolution? Parce qu'on a fait, on a l'impression que tous ces rappeurs sont un peu appropriés un mouvement Blaxploitation des années 70 sans même vraiment comprendre à quoi ça servait. Donc comment vous avez vu cette évolution par rapport à votre culture musicale personnelle?
Et c'est-à-dire qu'au départ, j'étais un petit peu reluctant, comme on dit, réticent par rapport à cette culture 70s. Mm-hmm. C'est parce qu'il donne l'impression quand même de le prendre par la surface. Mais quand il y avait un mélange avec, comme je disais, les gens comme Dead 13 ou même Kanye West qui n'ont pas du tout ce côté un petit peu 70s, il y a une authenticité qui s'est recréée. Et puis quand on écoute des gens comme Eric Abadou ou Jill Scott, c'est quand même des super vocalistes. Mm-hmm. Et y a vraiment un fond dans leur musique, même s'il y a les côtés, les perruques et le côté 70. D'ailleurs, il y a un plan où on voit sa perruque s'envoler.
Ouais, bien sûr.
Parce que c'était important de voir qu'il n'y avait pas que cette apparence qu'il y avait en dessous. Bon, c'était quand même des gens qui sont des vrais musiciens, qui ont un rapport humain très fort et qui ont vraiment le sentiment d'appartenir à une collectivité. Et puis de leur sorte ce sentiment de responsabilité envers le message qu'ils donnent aux jeunes. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on n'a pas eu le côté rap gangster, peut-être un tout petit peu avec Kanye West, et encore il est plutôt moralisateur en fin de compte.
D'accord. Et là maintenant vous êtes attaqué au projet Beacon Rewind qu'on a vu, qui est vraiment un film archi généreux où on voit encore qu'il y a tout un imaginaire mais qui sert pas vraiment à se recroqueviller sur soi mais à créer un petit peu une création particulière et une ouverture la plus large possible. Ouais. L'aventure Block Party, ça a inspiré dans ce sens?
Oui, totalement. C'est-à-dire que j'aurais jamais eu le courage de parler d'une communauté ou même d'une ville ou d'un village sans être passé par Block Party, et notamment par Dave Chappelle qui, en fait, au départ, il devait faire partie du casting, et puis bon, comme il est un petit peu à son habitude, il a un petit peu laissé tomber. Mm-hmm. Mais il m'a laissé un petit peu un porte-à-faux parce que parler de problèmes entre les noirs et les blancs, c'était un petit peu pas... Je me sentais pas trop légitime. Mm-hmm. Et puis il a fallu que je me sentais légitime quand Dave était à mes côtés, mais après tout seul, il a fallu que je m'arme de courage pour continuer dans ma lancée. Et puis finalement, c'était pas mal, c'est un sentiment que j'aime assez d'être en porte-à-faux ou d'être dans une situation de danger. Et puis c'était assez bien finalement ça s'est bien passé.
Ouais, puis la rencontre avec Mos Def sûrement sur le tournage de Block Party, ça a été déterminant dans le projet. Il ressort de tout ce qu'on peut lire sur vous et de ces films que vous cherchez toujours à montrer que la modernité existe à la fois dans le passé mais aussi dans le présent. La nostalgie, c'est pas trop votre truc, hein?
Ben, c'est marrant que vous me dites ça parce que vous me disiez ça parce que ça me fait plaisir, hein, mais souvent on m'accuse comme fréquemment d'être nostalgique. Par exemple, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué le film en disant que c'était pas possible d'avoir un magasin de vidéo avec des VHS ou avec que des VHS, et c'était de la pure nostalgie. Moi, je me vois pas comme quelqu'un de nostalgique. C'est vrai que j'ai une tendresse pour les souvenirs, mais moi, ce que j'aime, c'est quand je parle de Fats Waller, voir ce qu'il y a de moderne.
Bien sûr.
Parce qu'à l'époque de Fats Waller, il y avait aussi des gens qui étaient ringards et démodés. Et que Fats Waller, il était moderne, il est toujours moderne, sauf que la modernité, elle reste moderne, elle ne vieillit pas. Et les gens qui vieillissent sont des gens qui, d'une certaine manière, influencent plus, ou sont plus influencés par leur temps présent, mais du coup, vieillissent avec le temps qui passe.
Bien sûr.
Les gens qui sont un peu en dehors du temps, à mon goût, restent toujours en dehors du temps et donc, par là même, sont modernes.
Mm-hmm.
Et donc, j'essaye toujours de trouver cette modernité à n'importe quelle époque. Et on peut la trouver, parce que dans n'importe quelle époque de la musique, il y a eu des gens qui ont fait des mini-révolutions ou des grosses révolutions.
Bien sûr.
Je sais pas, tous les grands compositeurs, Bach, le premier, c'est des choses qui sont toujours restées modernes.
Mmh. Et à propos de nostalgie, donc des souvenirs, etc., ça a dû être une frustration parce que bon, je sais que Retour vers le futur, c'est un nouveau film fétiche. Ça a dû être une frustration de ne pas pouvoir l'utiliser dans le film, ça.
Ouais, un petit peu. Ouais, mais on a pris Ghostbusters à la place. Je pense.
C'est pas mal aussi.
C'est presque mieux. Ce qui est rigolo, c'est que maintenant, je le vois projeté un peu partout, Ghostbusters. Hein. je me demande si c'est pas par influence. Et ils ont été un peu cons, je trouve, de pas nous laisser utiliser. Retour vers le futur, mais bon.
D'un autre côté, quand on parlait de communauté, quand on voyait Marty McFly apprendre à une bande de blagues à jouer du rock, c'était pas franchement...
Mais ça, je voulais justement faire la version suédée pour que ce soit Mos Def qui apprenne à Jack Black de faire le rock. Parce que ça, malgré que ce soit un de mes films préférés, j'ai toujours été horriblement choqué de par ça, quoi.
Ouais, c'était pas...
Que ce soit un petit blanc qui apprenne
c'était pas élégant,
à
ouais.
jouer du rock... ça, c'est typiquement américain.
Alors, le piano, c'est un élément omniprésent dans votre univers musical et cinématographique. La raison qui a poussé à choisir Fats Waller comme figure de la communauté, c'était laquelle ?
J'ai toujours bien aimé ces petits scopitones qu'il avait. Il y avait un côté très spontané. Bon, déjà, musicalement, il est très... sous-estimé parce que c'est un excellent musicien. Bon, par exemple, Count Basie a appris à jouer du piano en mettant ses pieds sur Fats Waller quand il jouait l'orgue pour apprendre les fondamentales des accords. Donc c'était un musicien extrêmement élaboré. Il pouvait jouer du Bach. Ce qu'il faut savoir, c'est que les musiciens de jazz, il y avait tellement de compétition que pour émerger, il fallait vraiment être...
Bien sûr, ça devait être terrible.
Énormément. Quand on voit, c'est vrai, quand on voit des musiciens de classique, bon, comme Glenn Gould ou autres, c'est des gens qui ont une virtuosité incroyable. Mais ils avaient, en plus de ça, les jazzmen, un sens du tempo qui était encore supérieur. Il y a beaucoup de musiciens classiques qui ont une grande virtuosité, mais ils ont un tempo complètement élastique. Moi, ça m'arrive de faire des sessions comme ça pour la télé, pour déconner avec des... j'ai joué récemment avec une musicienne classique et elle essayait de faire du jazz, mais c'était horrible parce qu'elle avait un mépris total pour la main gauche. Et moi, j'avais aucune fondation. Et donc, un gars comme Fats Waller, il avait une main gauche qui était incroyable. C'est-à-dire qu'il faisait les basses et les accords, ce qu'on appelle le stride.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que la main gauche oscille entre les octaves les plus graves. Donc, jouer la note fondamentale, celle dont je parlais avant, avec le petit doigt et le pouce, et boum, entre à chaque temps ils vont deux octaves au-dessus, disons un octave au-dessus du pouce, et ils font l'accord. Et c'est pour ça qu'on voit ce mouvement typique des pianistes de cette époque, comme Woody, The Lion Smith, et même Art Tatum a fait partie de cette école aussi. Donc il y avait les grandes parties, qui étaient ces parties à Harlem, ça démarrait sur Harlem, parce que les loyers étaient plus chers pour les noirs que pour les blancs.
Mmh.
Aussi, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que quand vous étiez noir, et c'est presque probable que ce soit toujours le cas maintenant, juste par la couleur de votre peau, vous étiez taxé. Donc je crois que par pièce, c'était $6 de moyenne pour les familles de blancs et $9 pour les noirs. Et Harlem, c'était un des endroits les plus chers. C'est pour ça que c'est devenu entièrement noir, parce que les blancs pouvaient aller où ils voulaient et ils ne voulaient pas se faire chier à payer ce prix-là.
Bien sûr.
Donc les noirs se sont retrouvés dans ce coin qui était assez chouette. Harlem, au départ, c'était des brownstones et des maisons super luxueuses. Mm-hmm. Et ils ont fait ces round parties qui consistaient à amener un piano et à faire des compétitions de pianistes. Et tout le monde apportait $1 ou ce qu'ils pouvaient. Et comme ça, ils pouvaient payer leur loyer. Et en plus de ça, ils ont développé leur maîtrise.
Leur art, bien sûr, évidemment. Et on va parler maintenant de la playlist que vous nous avez envoyée, donc, qui est assez éclectique. Hein. Il y a 4 morceaux totalement qui partent un peu dans tous les sens au niveau influence, en tout cas. Il y a un morceau de Rufus, un morceau de Duke Ellington, un morceau de Booker T, évidemment, et un morceau des Peaches, qui était assez étonnant. Non. Comment ?
Un morceau des Pixies ?
Des Peaches.
Ah non, Peaches, oui.
Oui, des Peaches.
Ouais.
Donc, deux mots là-dessus ? Sur toutes ces influences.
Alors,
un peu diagonales ?
Duke Ellington, c'est un disque...
C'est Fleurette africaine.
Très... Hein. Ouais. Ça fait partie d'un disque qui s'appelle Money Jungle. Mm-hmm. Il a fait un petit peu en réponse à 7h62, je crois. Je suis jamais sûr des dates, mais il y avait évidemment la mode bebop et il voulait montrer qu'il n'était pas, c'était pas un pépé, quoi, qu'il était toujours dans le coup. C'est vrai qu'il a fait un disque incroyable moderne avec donc Charles Mingus et Max Roach, qui étaient des musiciens pointe du bebop. Et il a fait un disque complètement incroyable. En fait, il montrait à tous les jeunes qu'il avait déjà tout assimilé dans le bebop et qu'il pouvait aller encore plus loin. Mm-hmm. Donc, Florida African, c'est un morceau qui est magnifique.
Ouais.
La batterie joue le rôle de la basse joue du piano, et le piano joue le rôle de la batterie. Enfin, il y a une sorte de soupe où tout chacun joue des trois instruments à la fois. Parce que bon... le piano, c'est comme un instrument percussif, et la batterie, finalement, quand c'est bien accordé, c'est aussi un instrument mélodique.
Ouais, tout à fait.
Et la basse, évidemment, c'est aussi percussif quand on frappe les cordes. Donc ils ont su jouer de ça et créer une musique vraiment atmosphérique et très envoûtante.
Oui. Alors le reste, bon, Booker T, on connaît votre amour. C'est vraiment le...
De la musique répétitive funk hypnotique
oui.
Avec un groupe qui s'arrête jamais et ça tourne, quoi. C'est vraiment la définition d'un morceau qui tourne.
Donc il y a Rufus juste après, qui est aussi quand même une définition du funk péchu base.
Avec Chaka Khan,
tout à fait.
Qui était sublime. Et puis en fait, c'est un morceau composé par. Stevie Wonder et toute la mélodie est en syncope, c'est-à-dire que toutes les notes sont entre les temps et c'est incroyablement ça fait bouger, quoi.
Ouais, en effet. Et le Peaches alors?
Peaches, ben moi je trouve que cette nana est incroyable. J'avais vu en première partie de Björk à Paris, elle se faisait siffler comme habituellement à Paris et je trouvais qu'elle était géniale. Et
elle est passée à Marseille il y a pas longtemps, elle avait retourné la scène. Hein. C'était assez marrant, elle avait une énergie assez communicative en tout cas.
Parce que j'aime pas trop les trucs sexuels généralement, mais il y a un esprit qui est vraiment avant-garde et bon enfant.
Voilà, c'est ça, surtout bon enfant.
Ouais.
Alors, dernière petite question pour conclure cette interview. Dans Block Party, à un moment, on voit Dave Chappelle qui essaye de nous donner sa millième interprétation de Round Midnight et qui nous dit que tout musicien rêve d'être comédien et tout comédien rêve d'être musicien. Et le réalisateur Michel Gondry rêve de quoi ?
Moi, je rêve c'est de continuer, hein, c'est déjà pas mal.
Ouais. Il y a des projets en cours ?
Et puis j'ai un rêve aussi, c'est de faire un album avec Booker T, mon premier qu'il ferait. Je veux faire un album de toutes les reprises de classiques qui ont existé depuis qu'ils ont arrêté de faire de la musique ensemble.
D'accord.
En passant par les Clash, The Cure, Michael Jackson. Et j'ai en tête tous les arrangements comment Booker T pourrait le faire avec son orgue. Je vais même faire The Message. et faire la ligne de voix avec l'Orgamonde. Et j'ai des idées pour faire les arrangements de Bad de Michael Jackson avec l'Orgamonde et de jouer avec les quatre instruments, parce que c'est ça qui est bien dans Booker T and the MGs, c'est qu'il n'y a pas de fioriture.
Et ouais, ils sont tous là.
Il y a juste les quatre instruments et c'est juste.
Et ça ronfle.
Et ça ronfle parce qu'ils jouent pas pour eux, mais ils jouent les uns pour les autres. Quand on les voit jouer, ils se regardent. D'ailleurs, ils ont appris à jouer en studio sans s'entendre, juste en se voyant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de casque. Et les premières sessions en studio qu'ils ont faites, et ils avaient des murs avec des fenêtres. Et Steve Cropper m'a expliqué que lui, il n'entendait rien. Et il regardait la main gauche de Al Jackson, le batteur, et à chaque fois qu'il voyait que la main tapait sur la caisse, il faisait son accord.
Bon, bah alors, un album plutôt sympa à venir. Et puis, il faudra, Michel, je suis désolé, il faudra revenir nous en parler alors de cette histoire.
Oui,
parce que ça, parce que là, le scoop, il nous a bien excité quand même. Michel Gondry, merci infiniment pour cette interview. On va se quitter en écoutant Melting Pot de Booker T parce que ça nous a mis l'eau à la bouche. Merci infiniment, quittez pas deux secondes. On espère vous retrouver très bientôt sur les écrans, très bientôt sur nos platines. Et puis bonne journée à New York.
D'accord.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Voilà, un grand merci à Monsieur Michel Gondry de nous avoir accordé cette interview pour finir en feu d'artifice cette saison de Soul Vibration qui a été vraiment très 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 riche. On n'a pas pu passer tous les morceaux qu'on voulait, la playlist de Michel Gondry, on n'a pas pu jouer tout ce qu'on voulait aussi puisque Red Corner, celui-là, il nous attend. Donc dans cette playlist, hein, les morceaux préférés de Michel Gondry, il y avait le morceau de Duke Ellington, Florette Africaine. Il y avait Sally Love des Peaches, il y avait Melting Pot que vous êtes en train d'écouter de Booker T, et puis on attend cet album peut-être de reprise avec Booker T, Michel Gondry, avec grande impatience. Donc ce soir on a écouté quand même Humankind d'Alice Russell, on a écouté Guilty Simpson, It's a Man's World, si vous êtes fidèle à Soul Vibration, ça a été notre générique pendant de nombreux mois, et puis on a écouté Riding Dump Fiddler, Burn Mess de Belle Rush, Trading Water de Baby Charles, The Rising the Natural Self, Way of Life d'Aaron Jerome, et My World is Empty Without You de TM Joke, Melting Pot de Booker T qui est en train de tourner là. C'était Mars Blackmon sur cette saison 2007-2008. pour Soul Vibration. Moi, je voudrais remercier très fort Seb d'avoir été là toute l'année, d'avoir téléphoné aux gens, d'avoir tenu les interviews, d'avoir envoyé certains disques. Remercier la cinquième colonne qui a été là toute l'année aussi. On a bien travaillé ensemble. Puis remercier tous les auditeurs qui étaient là, les princesses bien sûr. Et puis cette émission, vous la retrouvez demain sur le podcast. Et puis restez quand même branchés sur le site de Grenouille pour toutes les nouveautés à venir pour la saison prochaine. Voilà, c'était Mars Blackmon, c'était Sous Vibration, saison 2007-2008. Je vous dis à très bientôt, passez un excellent été, d'excellentes vibrations pour juillet, août, et voire même septembre. Et nous, on se retrouve en octobre pour de nouvelles aventures. Ciao ! Voilà, avant-trait corner termine. Juste, je voulais dire à la demande de Monsieur Gondry quand même, quand Monsieur Gondry demande quelque chose, on le fait, de parler de son compositeur, Monsieur Bernard, qui évidemment s'est occupé de toute la composition de la bande originale Be Kind Rewind, avec qui il travaille en étroite collaboration. Voilà, désolé d'avoir de l'avoir oublié en premier lieu. Toutes mes excuses à Monsieur Bernard, Monsieur Gondry. Red Corner à suivre. Peace out.